Bonjour Claire Richard.
Bonjour.
Alors nous sommes avec vous pour Pardonner à nos mères, qui est un livre qui est sorti aux éditions Les Renversantes. Et avant toute chose, j'aimerais que vous nous donniez une définition de la matrophobie.
Alors la matrophobie, c'est un concept qui a été développé par la poétesse américaine Adrienne Rich en 1976, dans un livre qui s'appelle « Naître d'une femme, la maternité comme expérience et comme institution ». Et donc, dans ce livre, elle s'intéresse à, effectivement, qu'est-ce que c'est d'être mère dans un monde patriarcal, en gros. Et elle consacre un chapitre à la condition des filles. Et dans ce chapitre, elle propose ce concept qui est vraiment important, où elle dit... En fait, la matrophobie, c'est la peur des filles de devenir comme leur mère. Et non pas pour des raisons psychologiques ou d'ordre psychanalytique, mais parce que dans un monde... c'est pas pour dire qu'elle dit qu'il n'y a pas aussi ces composantes-là. Mais en tout cas, ce qui l'intéresse et ce que recouvre le concept, c'est cette peur des filles de devenir comme leur mère, parce que dans un monde patriarcal, c'est la mère qui incarne à leurs yeux, comme elle dit... La messagère de la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, les filles ne veulent pas être comme leur mère parce qu'elles voient bien dans les vies de leur mère ou dans ce que leur disent leur mère ou dans ce qu'incarne leur mère, ce que fait le patriarcat des femmes.
Et vous, de découvrir ce mot, vous racontez dans votre livre que ça vous a soulagé, ça vous a aidé.
Oui, parce que, en fait, à une période où quand ma relation avec ma mère était plus difficile, quand j'étais pas mal plus jeune, j'ai beaucoup cherché d'explications, en fait, de choses qui m'aideraient à la comprendre. Et je trouvais que des livres plutôt de psychologie ou de psychanalyse et qui tournaient beaucoup autour d'une triade, fusion, rivalité, retrouvaille, ou d'archétypes. Il y avait des couples mère-fille qui étaient décrits autour de la jalousie, la rivalité, la fusion. Et il n'était pas question de cette question patriarcale, en gros, même si moi à l'époque, quand je cherchais ça, c'était avant le renouveau du féminisme. Mais en tout cas, c'est dans ce concept-là que j'ai eu l'impression de lire pour la première fois ce qui m'avait semblé jusque-là de façon plus, instinctive ou floue, le cœur de ce qui m'avait éloigné de ma mère, à savoir cette question patriarcale, en fait, cette question de voir en elle ce que la famille avait fait d'elle, ce que sa relation avec mon père avait fait d'elle dans le cadre de la famille, et qui faisait que je ne voulais pas lui ressembler. Et donc, ça a produit un effet d'éclairage et de déflagration qui, même maintenant, en fait, j'ai presque du mal à retrouver qu'est-ce que c'était de penser à cette relation sans avoir ce concept-là. Puisque je l'ai rencontré il y a 6 ans, et puis comme j'ai écrit le livre et j'ai mis du temps à l'écrire, donc en fait maintenant je côtoie, et puis j'en ai du coup depuis, j'ai eu la chance de pouvoir en parler de ce concept, donc maintenant il est devenu très, très intégré. Donc c'est presque un continent un peu lointain de se rappeler qu'est-ce que c'était avant. Mais par contre je me souviens vraiment de ce que ça faisait au moment où c'était hyper dur d'aller à la bibliothèque municipale et de chercher des livres et de trouver que des livres de psycho, mais qui semblaient quand même parler des mères et des filles de façon générale et de pas y trouver du tout la trace de ce que moi, de ce qui avait été mon expérience et qui tournait plutôt autour de voir ma mère effacée, un peu rabaissée quoi par la configuration familiale. En fait, c'est toujours la même question. De trouver un concept qui soudain résonne, en fait, ça crée effectivement un sentiment, ça sort de la solitude, parce que d'une part, on sait qu'on n'est pas, du coup, on n'est pas la seule à éprouver ça, mais aussi que si quelqu'un y a donné forme et un mot pour ça, c'est que, c'est quelque chose qui d'une part est partagé, et puis aussi qui devient maniable, qui devient pensable. Et à l'époque où j'avais pas de clé, en tout cas de clé qui me parlait pour le comprendre, c'était plus, j'ai l'impression que j'étais plus à la merci aussi des sentiments que ça faisait naître.
Parce que vous racontez donc dans votre livre que finalement votre mère vous transmet une forme d'angoisse, de peur et d'impuissance. Vous dites je suis de cette génération. Alors moi ça m'a beaucoup interrogé ce mot génération. Je me suis demandé s'il y avait une génération plus qu'une autre qui recevait cette peur de l'agression. Par exemple, à cet endroit-là, vous racontez que finalement, les mères de famille transmettent particulièrement une position du rapport aux hommes vraiment très typée.
Alors, C'est une bonne question, la question des générations, et c'est quelque chose, parce que le livre, évidemment, il n'a pas du tout prétention à épuiser la question, mais en tout cas, c'est une des lignes que j'aimerais bien creuser. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui m'est apparu en faisant les recherches pour le livre et en écoutant plein d'expériences de femmes aussi pour le livre, c'est que de fait, les mères, puisqu'elles sont traditionnellement chargées de l'éducation des enfants et a fortiori de l'éducation des filles, et enfin, ça dépend des milieux, parce qu'il y a eu des moments historiques où c'était pas tant les mères qui le faisaient, mais enfin, quand même, traditionnellement, ça l'est. Et donc, par ailleurs, elles passent plus de temps, elles sont plus, enfin voilà, la charge de l'éducation des enfants repose plus sur elles, pour tout un tas de raisons sociologiques qu'on connaît bien. Et donc, assez logiquement, elles se trouvent à transmettre, délibérément ou pas, certaines des normes du monde dans lequel on vit, quoi, du monde patriarcal. Et je pense que parmi celles-ci, il y a effectivement la question de... Alors je pense, parce que l'angoisse, en fait, ça me fait penser à la question de l'inquiétude nocturne, puisque moi, c'était ça qui était très fort, enfin, parmi d'autres, mais c'était la plus évidente, quoi. Et donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est ma mère qui me l'a transmise. Est-ce que c'est plus quelque chose de génération? C'est une bonne question. Parce que, de fait, j'ai l'impression d'avoir lu pas mal d'analyses sur le fait que les enfants, enfin, le rapport à l'espace qu'on autorise aux adolescents ou aux enfants, il a beaucoup changé sur ces 30 ou 40 dernières années. Voilà. Et en même temps, on peut aussi imaginer ce qui est un peu tragique, c'est que si les mères, elles transmettent... Enfin, comment dire? Il y a plein d'aspects à ça. C'est que peut-être elles transmettent une menace qu'elles ont éprouvée. Donc, en fait, c'est aussi une angoisse qui se veut une protection. C'est-à-dire que la mère, par ça, elle, bah, évidemment, qu'elle cherche à protéger sa fille de ce qui pourrait lui arriver de grave. Voilà. Mais la fille, en tout cas, dont peut-être la fille, c'est là un terme un peu général pour parler de moi. En tout cas, moi, c'est une peur qui était hyper profondément ancrée quand j'étais adolescente, qui m'a laissé vraiment... Enfin, je m'en souviens très fort, quoi, de cette expérience des samedis soirs, de rentrée, terrifiée. Parce que j'imagine que j'avais reçu ce message-là, en plus ou moins explicitement de ma mère, parce que j'ai pas vraiment un souvenir qu'elle m'ait dit « Attention, des voitures peuvent s'arrêter et te kidnapper. » Mais j'étais terrifiée de la moindre voiture qui passait, quoi.
Et alors, c'est marrant que vous parliez d'espace, parce que dans votre livre, vous tracez une diagonale intergénérationnelle finalement de la transmission de l'oppression d'une part. Vous présentez une cartographie en plusieurs... Et donc, c'est marrant que vous utilisiez ce mot de l'espace, parce qu'en lisant votre livre, moi, je me suis posé la question de la place. Et finalement, je trouve que votre livre évoque beaucoup la question de la place d'une fille dans une famille avant qu'elle devienne une femme.
Oui, bah tout à fait. En fait, je pense que... Alors peut-être, je sais pas, c'est peut-être des configurations mentales qui font que j'aime bien les idées d'espace, de cartographie, etc. Mais en tout cas... Je pense que l'intérêt aussi de penser une fille en tant qu'elle est dans une place de configuration familiale, mais aussi héritière de lignée et donc de questions qui se transmettent de génération en génération, de problèmes peut-être de tensions, de violences qui se transmettent de génération en génération, ça permet aussi de sortir en fait de la question du face-à-face entre une mère et une fille, parce que moi j'ai quand même l'impression, une fois de plus, je réagissais aussi à des choses qui m'avait fait me sentir seule quand je les lisais, c'est qu'il y a des, je pense qu'il y a des lectures, alors pas toute la psychologie, pas toute la psychanalyse bien sûr, mais qui en fait ont tendance à réduire la question d'une fille et d'une mère à une sorte de face à face, quoi, un peu deux sujets, alors certes pris un peu dans des histoires familiales, mais enfin quand même deux sujets qui se rencontrent, pris dans une relation. Et bien sûr que c'est vrai, mais en fait j'ai l'impression qu'on peut pas comprendre non plus ça sans le replacer effectivement dans un système plus vaste qui est celui des structures sociales, des héritages familiaux, et donc la cristallisation la plus immédiate au premier niveau, c'est la cellule familiale, quoi.
Et à cette réflexion-là, vous ajoutez donc une dimension parfaitement sociologique finalement en lançant un questionnaire avec Victoire Thuaillon. Donc ça, c'est ce qui a constitué votre enquête aussi, c'est 150 témoignages.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, très vite, moi, j'avais pas du tout envie de raconter mon histoire avec ma mère, d'en faire le cœur du livre, pour plusieurs raisons, parce que déjà elle est vivante et que ça aurait été l'exposer beaucoup. Et puis c'était pas très intéressant, ça me semblait pas follement, En tout cas, j'avais quand même la sensation que, enfin, la connaissance même qu'il y avait plein de configurations possibles. Et il y avait d'une part ça, c'est-à-dire faire entendre beaucoup d'autres histoires que la mienne. Et il y avait aussi quand même l'idée de tester cette hypothèse que la matrophobie, ça parlait à plein d'autres femmes que moi, puisque c'était l'hypothèse de départ qui justifiait l'idée d'en faire un livre. Parce que comme ça a été, donc, comme je le disais, un moment vraiment de reconnaissance, comme on peut en avoir, et c'est ça qui fait que... Moi, j'aime bien lire des sciences humaines et de la philo moins, mais parfois aussi pour ces effets de reconnaissance, quoi. Donc, il y avait cette intuition, cette hypothèse que ça, si moi ça me parlait, ça parlait probablement à plein d'autres gens, mais il fallait quand même le tester. Et donc, l'idée de l'appel à témoignage, c'était pour répondre à cette double question. Est-ce que le terme matrophobie résonne pour d'autres femmes? Et puis, comment ça se présente pour elles? Qu'est-ce que ça recouvre? Donc, effectivement, il y a eu cette approche. Alors, je dirais pas sociologique au sens où, parce que justement, la question s'est posée très vite de ah, mais alors. Qu'est-ce qui est représentatif? Qu'est-ce que ce serait de faire un échantillon? Et en fait, j'en ai pas la moindre idée.
Oui, oui.
C'est pas mon métier, je sais pas faire, quoi. Et donc, en fait, c'est peut-être plus une démarche, pour le coup, plus documentaire, de se dire, bon, bah alors, je vais aller solliciter d'autres récits, avec cette idée. En plus, moi, j'aime bien l'appel à témoignage, parce qu'alors, il a plein de biais, hein, je vais pouvoir y revenir après, mais il y a aussi l'idée que, bon, bah voilà, les gens ne répondent que celles qui se sentent concernées. Que cet appel, du coup, si ça résonne, si ça atterrit quelque part et que ça donne envie d'écrire, les femmes vont pouvoir y répondre. Et j'aime bien parce que ça, il y a peut-être une idée aussi que je viens pas extirper un témoignage, puisque je suis pas en train de solliciter des gens spécifiquement, quoi. Voilà, donc ça me semblait assez juste. Et voilà, et après, du coup, il a des biais comme tout appel à témoignage, parce qu'on l'a fait circuler via la newsletter du podcast de Victoire Toyon, Le cœur sur la table. Donc, ça a touché principalement des personnes qui avaient déjà un intérêt pour les questions féministes, un intérêt suffisamment prononcé que pour s'abonner à la newsletter. Donc, voilà, de fait, il n'est pas représentatif des femmes de la population française. Mais ça, c'est un peu mes marottes, peut-être ça, c'est un peu spécifique, mais parce qu'on s'est posé la question, parce qu'évidemment, il y a une surreprésentation des femmes de classe moyenne et plutôt des femmes blanches. Donc, ça posait évidemment un problème de biais. Et on s'est demandé comment... Enfin, je dis « on » parce que c'est une discussion qu'on a eue en commun avec Victoire et avec Karine Lanini, qui est l'éditrice. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette surreprésentation-là? Et donc, on s'est demandé, est-ce qu'on cherche à le diffuser auprès d'autres catégories de femmes? Mais on n'a pas réussi à imaginer quelque chose qui ne serait pas instrumental. C'est-à-dire que je ne voyais pas comment, puisque je ne suis pas sociologue et que je ne sais pas comment on fait une enquête de sociaux, et que par ailleurs, c'est un autre travail, je ne vais pas m'improviser sociologue, je ne voyais pas comment faire ça sans aller chercher très concrètement des assos de femmes racisées en leur disant voilà le témoignage, est-ce que vous pouvez le faire tourner autour de dans votre population de femmes racisées, avec quelque chose qui me semblait quand même super instrumental, parce que c'est pas comme s'il y avait des gens avec qui j'aurais travaillé depuis très longtemps, des assos, on aurait pu dire ah voilà, ça aurait été plus organique. Donc on a assumé les biais de cet échantillon.
Et c'est particulier.
Ouais, c'est pas un échantillon.
Oui, c'est particulier, comme vous le dites, hein, de solliciter ces femmes. Alors la façon dont vous l'intégrez, dont vous intégrez ces paroles dans votre texte est très fluide, parce qu'on a la sensation d'une conversation. Il y a des moments où le texte s'interrompt pour un récit en particulier. Mmh. Et au final, ça donne quand même la sensation de la nécessité de l'écoute. Alors vous vous disiez à l'instant que c'était important pour vous d'avoir trouvé d'autres qui pouvaient penser la même chose que vous, ou en tout cas avec qui vous pouviez communiquer, ou d'autres écrits. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites, au début, je ne trouve rien, il n'y a rien dans le féminisme, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'écrits, par exemple, sur les parents qui cherchent à pardonner à leurs enfants, mais sur cette relation-là, fille, il n'y a rien. Bon, très bien. Ou alors des choses, vous citez des psychanalystes aussi, il y a des pages qui sont hilarantes si elles ne sont pas désespérantes. Mais en tout cas, je me suis vraiment posé la question de l'écoute, d'un temps d'écoute. Et ça m'a amené à une autre question, qui est celle de l'adolescent qu'on n'écoute pas, qu'on ne considère pas.
Ouais, c'est intéressant. Effectivement, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses en vous écoutant. Il y a la question de l'écoute. Je pense que moi, je fais beaucoup de radio aussi, donc ça m'importe. Après, il y a évidemment la question d'une expérience qui a été... sur laquelle, en tout cas, peut-être pour plein de raisons sur lesquelles peut-être on reviendra, mais qui qui a été peu décrite, c'est-à-dire les difficultés des filles avec leur mère d'un point de vue féministe. Donc c'était aussi assez logique de dire bah, ce livre, il n'a pas prétention à épuiser la question, mais peut-être bah, voilà, à la déplier, quoi. À dire, bah, voilà, dans la vie de toutes ces femmes qui ont répondu, ça ressemble à peu près à ça. Donc ça, ça impliquait effectivement de leur laisser de l'espace. Mais c'est sûr qu'au fond, cette question de l'adolescent qu'on n'écoute pas ou de l'enfant qu'on n'écoute pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui consiste, qui est presque un peu une lisière du texte, parce que c'est une pensée, plutôt c'est des idées qui me sont venues un peu en cours de route aussi, parce qu'elles sont développées, je trouve, plus en ce moment sur les questions de ce qu'on appelle la domination adulte. Qu'est-ce que c'est, quelle est la place qu'on fait à la parole des enfants et à la parole des adolescents, même si... Donc du coup, je pense qu'il y a ça, effectivement, cette espèce de... Je sais pas si c'est silence, mais en tout cas, méconsidération pour la parole des enfants et des ados. Et en même temps, ce qui était très frappant dans les récits que j'ai reçus, c'est que c'est précisément, pour la plupart, pas du tout des récits d'adolescentes. C'est-à-dire que c'est ce qu'on entendait, c'est ça qui était très, qui m'a beaucoup, beaucoup émue, c'est des femmes. Et donc, mais dans laquelle on pouvait sentir encore, je ne sais pas ce qu'elles avaient, la blessure ou la douleur ou la rage qu'elles avaient pu vivre à plein de moments, mais sur laquelle elles avaient aussi réfléchi. D'où aussi l'idée, par ailleurs, de leur faire une grande place dans le texte, c'était que, parce qu'au départ, il y avait peut-être cette idée un peu plus classique de... peut-être je vais en rappeler quelques-unes et creuser certaines histoires avec un truc qui serait peut-être plus représentatif. Mmh. Et en fait, très vite, je me suis dit déjà, cette posture de casting, je la déteste. Je la trouve hyper bizarre. Je vois pas pourquoi telle vie serait plus intéressante qu'une autre. Et par ailleurs, en fait, très vite, je me disais, mais non, c'est la multiplicité qui est intéressante. Et en plus, toutes ces femmes, elles ont réfléchi beaucoup à cette relation. En fait, elles y ont pensé pendant des années. Donc elles ont plein de choses à dire. Et c'est là où la différence avec la parole adolescente, elle est assez frappante. Et j'y pense aussi parce qu'il y a quelques témoignages dans lesquels on sentait la proximité de la colère. En fait, quelque chose de très très fort. Et en général, c'est des témoignages que j'ai pas retenus dans le texte. Parce que justement, il me semblait encore trop à vif presque.
Ah, mais vous le dites hein, dans votre texte, dans ces témoignages, vous êtes surprise de découvrir parfois de la maltraitance ou de la violence à l'endroit des filles dans certains récits, dans certains témoignages. Et puis, effectivement, je trouve que ça, c'est très intéressant. On écoute votre livre autant qu'on le lit dans ces témoignages. Et à cet endroit, ça sonne vraiment comme un documentaire. Et donc, c'est vraiment... C'est très agréable et c'est très vivant. Ça emmène sur beaucoup de ramifications. Mais ce qui est frappant, c'est le fait que toutes ces femmes, quelque part, n'ont pas été entendues à un moment donné et du coup ont cheminé seule, oui, avant de se retrouver là, à cette intersection que vous leur proposez.
Ah oui, c'est vrai, ça va, ça me... En tout cas, j'espère. C'est un peu ça que ça permet, je pense, bah pour le coup, la pensée féministe, un concept. En fait, j'ai l'impression que c'est ça aussi que permet un beau concept, comme l'est Matrophobie, c'est-à-dire qu'il ouvre un espace dans lequel les expériences font sens, et surtout, du coup, elles sont partageables facilement. Comme l'a été la charge mentale, comme l'a été le continuum de violence. En fait, soudain, c'est des choses où le harcèlement de rue... Enfin, j'imagine que vous aussi, mais je veux dire, moi, j'ai grandi à une période où ça n'avait pas de nom. On savait toutes ce que c'était, mais ça n'avait pas de nom. Et donc, c'était pas palpable pareil. On pouvait en parler, se dire, mais il m'a traité de salope dans la rue, je sais même pas ce qui s'est passé. Mais on pouvait pas dire, c'est du harcèlement de rue. Et donc, en fait, je trouve que c'est ça aussi, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose, je sais pas, de très sensible dans les concepts et de très important dans les concepts, c'est que ça ouvre cet espace. Et ça me fait penser aussi à un message que j'ai reçu d'une des femmes qui a témoigné après la parution du livre, qui m'a beaucoup touchée, où elle disait que ça lui avait fait quelque chose d'important, enfin, qu'elle avait été émue de voir ces mots, pas publiés au sens publié, mais au sens imprimé. Et aussi que ça l'avait touchée plus que ce qu'elle pensait de les voir imprimés au milieu d'autres, et que ça lui donnait la sensation d'être non seulement effectivement son expérience était reconnue, mais qu'elle se sentait aussi portée par les voix qu'il y avait autour. Voilà, ça m'avait beaucoup touchée parce que j'avais pas imaginé ça, et donc je pense que c'est important, mais ça fait ça aussi les effets. Je pense que c'est ce qu'on vit en ce moment, quoi, sur les prises de parole collectives, et on le voit à chaque fois qu'il y a des dénonciations de violence, tout ce qui se passe avec MeToo, c'est ça, c'est justement pouvoir agréger Une longue traîne de témoignages qui forment du coup quelque chose qui protège et qui permet d'avancer ensemble, quoi. Même si c'est un peu des grands mots lyriques, mais il y a quelque chose comme ça.
Et dans votre livre, il y a beaucoup d'émotions finalement, mais pas de façon évidente à l'endroit où on l'attend. Parce que quand vous parlez des mères, vous donnez des chiffres, vous nous dites que 80% finalement sont des foyers monoparentaux avec une mère seule et avec ses enfants. Vous racontez que le Haut Conseil de l'égalité montre que 70% des petites filles estiment avoir été élevées différemment de leurs frères par leurs parents. Vous racontez des générations de femmes qui se sont retrouvées mères sans l'avoir voulu, ou en tout cas sans l'avoir complètement choisi. Et donc, à travers tous ces exemples, se dessinent des profils de mères. Et donc, il y a quelque chose de très douloureux entre les lignes à l'intention de ces femmes, pour entendre ces femmes qui sont là, d'une part, et en même temps, vous avez un traitement d'une grande délicatesse, d'une grande douceur. Votre écriture, votre façon de tendre le micro à d'autres femmes pour qu'elles racontent, même quand elles racontent des choses qui sont très violentes, votre mise en scène est extrêmement délicate, comme si le sujet était fragile. Le sujet est fragile, selon vous ?
Déjà, merci. Je réfléchis.
Mais je vous en prie.
Je pense que je me suis sentie... Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait l'envie, parce que de fait, c'est compliqué et c'est dynamique. Et donc, c'est parler de femmes qui reproduisent des oppressions qu'elles ont subies. Et donc, c'était justement de tenir un peu cet endroit à la fois de parler du point de vue des filles et pour les filles. Et ça, c'était assez important aussi pour moi. Je m'étais dit, il existe beaucoup de choses du point de vue des mères. Et c'est important. Et je suis mère aussi. Et ça, je pense que c'était important aussi, le fait d'être mère et donc de voir, de savoir que c'est difficile. Et encore, moi, c'est vrai, je suis vraiment pas mère dans les conditions... Je suis mère dans des conditions hyper privilégiées et pourtant c'est difficile. Donc je pense que c'était important, je gardais ça en tête et en même temps d'arriver à tenir les deux. Donc ça impliquait quand même des trucs de dialectique que je trouvais intéressant, parce que justement je voulais pas du tout reproduire une sorte de... Je sais pas, j'ai l'impression à une période d'avoir un peu souffert des récits univoques. Que ce soit la psychologie qui prenait pas en compte les questions féministes, ou que ce soit de récits féministes que je trouvais hyper beaux, mais qui racontaient des réconciliations et qui donc me laissaient aussi un peu à côté. Donc il y avait ça. Et après, je pense que quand même, il y a quelque chose de que je trouvais sincèrement triste. C'est-à-dire que dans les témoignages, ils m'ont vraiment émue pour plein de raisons. Parce qu'il y avait des récits de choses difficiles dedans, parce que il y avait, je sais pas, je me sentais... peut-être pas dépositaire, parce que c'est un peu fort, mais plutôt je me disais, mais quel honneur on me fait, en fait, de me raconter tout ça, de me confier ça, même s'il y a des femmes qui l'avaient écrit vite, et après, quand on les a tenues au courant de la publication du livre un an et demi après, je disais, ah, merci beaucoup, j'avais oublié. Donc, c'est pas non plus qu'elle m'avait légué ça sur un coussin de Satan, quoi, c'était pas ça, mais c'est juste que moi, je me disais, waouh, c'est hyper important, parce qu'il y avait quand même des témoignages qui vibraient aussi d'émotion, en fait. Donc, je pense qu'il y avait un peu l'idée de que ça a contaminé un peu l'écriture. Et aussi parce qu'au fond, comme vous dites, je trouve qu'il y a quelque chose de très triste aussi dans ce que ça dit de la condition des mères sur des générations. Alors, pareil, c'est pas toutes les mères, c'est pas que un récit tragique. Mais ça m'a fait penser, pendant que je l'écrivais, j'ai vu un film qui a été un projet hyper beau là sur France Télé, qui était la collecte de témoignages autour... La grande collecte de témoignages autour des récits des femmes qui ont avorté avant la légalisation de l'avortement. Et donc il y a eu ce film sur France Télé qui s'appelle Il suffit d'écouter les femmes. Et puis ils ont fait, c'est avec Lina, donc c'était un gros travail de collecte. Je crois qu'il y a eu un podcast, une BD, un livre et tout. Et du coup j'avais vu le documentaire et c'était hyper hyper émouvant. Et ça mettait aussi en colère. C'était les deux, quoi. De se dire, parce que c'était très beau de voir ces femmes qui avaient, je sais pas, 60 ans, 70 ans, dire comment elles avaient avorté à 20 ans. Toute seule, dans la peur. Et en même temps, ça mettait en colère de se dire, c'est vraiment dégueulasse qu'une fille de 20 ans qui vivait sa vie tranquille ait eu à vivre cette solitude et cette colère-là. Et donc, je pense que c'est aussi un truc que je me suis dit à plein de moments de l'écriture de livres. En fait, c'est dégueulasse. Je parle un peu ce truc de colère, d'imaginer ces mères qui, effectivement, n'ont pas voulu d'enfants, mais n'ont pas eu le choix, et donc transmettent à leurs filles des relations cassées, des réticences, des rancœurs, et que tout ça se transmette pendant vraiment assez longtemps jusqu'à ce qu'on en arrive à un monde plus féministe.
Et en quoi le féministe vous aide alors? Parce que vous parlez de ça dans le livre, hein, vous dites que ça vous a aidé de trouver des réponses dans le féminisme. Mais en même temps, vous dites que dans le féminisme, c'est la question que vous abordez, vous, n'a jamais été abordée, donc c'est quand même une interrogation d'une part. Et d'autre part, vous dites aussi que le féminisme peut parfois éloigner de nos mères.
Oui, ouais. Alors moi, ça m'aide parce que, pour ce que je disais, en fait, c'est tous ces concepts, tous ces sentiments de reconnaissance, en fait, de lire des livres et de se dire « Ah ouais, moi aussi, ah mais oui, ça ». Ouais, et puis de se sentir, j'ai quand même l'impression que nous, en plus, on a quand même la chance de vivre un moment où depuis une dizaine d'années, où il y a un renouveau très actif de tout ça, et donc, voilà, de voir que quand même, il y a toute cette... Enfin, de sentir même, je sais pas, à l'échelle de sa vie, des choses qui sont ouvertes au sens de ces mots qui sont apparus. Moi, je vois ma belle-fille, je vois qu'elle n'a pas le même rapport à plein de choses. Il y a des choses qui demeurent, hein, mais elle est complexée, tout ça. Mais d'autres, pas du tout. Donc ça, c'est quand même hyper joyeux. Et après, oui, alors, est-ce que le féminisme n'a pas parlé? Je pense que c'était... Alors, il y a quand même des textes anglo-saxons, puisqu'il y a la matrophobie, elle a été un peu reprise par des penseuses anglo-saxonnes du côté justement des études sur la maternité. Y a pas mal de chercheuses qui s'en sont quand même emparées. En France, effectivement, peu. Alors après, c'est intéressant parce que je pense que ça permet de réfléchir aussi sur les dynamiques internes aux gens du féminisme, par exemple. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'études là-dessus et je pense que ça mériterait... Mais bon, voilà, en gros, il y a quand même cette hypothèse que, d'une part... Le féminisme, finalement, c'est quand même un champ qui est assez récent. Puis là, sa réémergence dans les années 70, c'est sa réémergence. Enfin, non pas qu'il avait disparu entre-temps, mais en fait, ces moments où il flambe, où il y a une espèce de... Il reprend de la vigueur et il touche plus de gens. En fait, les problématiques, elles suivent aussi les trajectoires biographiques des militantes. Donc ça, je trouvais ça intéressant de dire, en fait, les femmes des années 70... Leur question, c'est pas ça. C'est d'abord l'accès à la maternité libre et choisie, donc la contraception, l'avortement libre et choisi. Ensuite, c'est se réapproprier la maternité, justement pour toutes les questions de justement tout un peu ce qu'on a pu appeler le féminisme essentialiste, de se dire de reproduire des textes sur le fait que ça puisse être une expérience créative et non pas juste quelque chose à voir comme un fardeau. Et puis je trouve qu'aujourd'hui on est beaucoup sur la question, à juste titre, la question des violences. On revient sur la question des violences domestiques, des violences faites aux enfants, des violences sexuelles, de l'inceste. Et aussi de reprendre la question de la difficulté de la maternité, des injonctions contradictoires qui pèsent sur les mères, du fait que la société n'est toujours pas organisée pour... elle dit qu'elle est pro-maternité, mais en réalité, dans ses structures, elle ne l'est pas du tout. Et donc, peut-être qu'en fait, il y a aussi des questions de priorité stratégique pour le féminisme. C'est de dire, est-ce que vraiment, il faut attirer l'attention sur ces dissensions internes entre femmes, alors qu'il y a déjà tellement de choses à faire à l'extérieur. Donc moi, j'ai aussi l'impression que cette critique-là, en tout cas, cette critique au sens d'un regard critique posé sur comment le patriarcat affecte la relation entre les filles et les mères, comment tout ça se transmet sur des générations entre les femmes, c'est aussi quelque chose qui peut être fait parce qu'il y a beaucoup de travail critique qui a été fait avant sur les maternités, justement parce que, évidemment, le risque, ce serait de dire c'est encore la faute des mères. Non seulement elles font mal, mais en plus, elles écrasent leurs filles. Et donc, c'est aussi que c'est possible de tenir ce discours dans un champ théorique et critique et intellectuel où il y a plein de d'autrices qui ont déjà très finement, très puissamment montré ce que c'est que l'institution de la maternité. Et donc, mais on en revient à ça, effectivement, cette idée aussi que le féminisme peut éloigner les filles des mères, qui m'avait aussi beaucoup émue et beaucoup attristée, en fait, je pense, pendant la... pendant que j'écrivais le livre, et j'en revenais à ce terme de « il y a un truc de tragique ». C'est-à-dire qu'effectivement, tant que la société n'est pas plus féministe, et quand même, c'est très lent, c'est-à-dire que là, on a plus de concepts, plus de pensées, etc., mais enfin, on n'a quand même pas une organisation du travail, ni de la famille, ni des gardes d'enfants, ni quoi que ce soit, en fait, qui soit vraiment féministe, et ben, c'est possible d'avoir des états où les mères, la libération de l'une se fait aux dépens de l'autre. Et donc, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les livres. Par exemple, il y a, je pense à l'effet maternel de Virginie Linard, qui, donc, dont la mère, ou la familia Grande de Camille Kouchner, même si elle défend beaucoup sa mère quand elle en parle, l'autrice Camille Kouchner. Mais en tout cas, on peut le lire aussi, on peut y lire aussi quand même le fait que ces libérations-là de ces mères-là se font de façon très forte et parfois aux dépens des filles. Vraiment littéralement, aux dépens des filles. La mère de Virginie Linard, ce qu'elle raconte, c'est que de fait, elle abandonne ses enfants quand elle sort le soir sans les prévenir, dans des situations qui sont angoissantes. Elle fait grandir ses enfants dans ce qu'on appellerait aujourd'hui très clairement des climats incestuels, mais qu'à l'époque, elle vit comme la marque de sa libération probablement sexuelle aussi. Donc ça, c'était intéressant. Et en même temps, il y avait aussi des exemples plus proches de nous. Il y en a un que je donne souvent, mais parce qu'il m'a marqué, c'est une femme qui dit... moi, quand j'étais petite, j'avais un don, mais en tout cas, mes profs m'avaient dit que j'avais des aptitudes, ou alors je sais plus si c'est théâtre ou chant, et ils m'encourageaient à le développer, mais pour ça, il fallait aller dans un conservatoire qui était à 1 heure de route de chez moi. Et ma mère a refusé de m'y emmener les samedis. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que, moi, quand je l'avais lu, je m'étais dit... En fait, je m'identifiais vachement aux deux positions. C'est-à-dire que je m'identifiais très fort, parce que j'ai eu du... Bah, bon, enfin, j'ai mis du temps à m'autoriser à être autrice, tout ça, tout ça. Et donc, je comprenais très bien ce que ça pouvait, à quel point c'était important d'être encouragé dans une carrière artistique très tôt, et à quel point ça, c'est des barrières internes de ne pas l'avoir été. Et en même temps, en tant que mère, je comprenais tout à fait une mère qui se dit « Ah non, mais moi, je passe pas mes samedis après-midi à faire ça. Je passe déjà toute la semaine à faire des trucs hyper lourds en termes de logistique. » Et donc, c'était hyper intéressant parce que je pense que ça dit quelque chose, justement, de tant que les structures ne changent pas, Il y a peut-être des effets de libération qui mettent les mères et les filles en porte-à-faux. Et puis, plus j'en parlais, parce que j'ai donné cet exemple plusieurs fois en librairie, et puis en même temps, je me suis dit, mais oui, mais en fait, il y a une façon de le penser. Or, et on en revient à ce problème de quand, tant qu'on le considère comme des face-à-face. Parce qu'en fait, la question qui se pose aussi, c'est, mais où est le père ?
Mais c'est ça.
Parce que là, il s'agit de familles hétérosexuelles. Où est le père ? Et parce qu'en fait... On peut alterner, le père peut s'en charger. Et puis plus largement, en fait, et on en revient à cette question de, en fait, il faut penser différemment la parentalité. En fait, si on se dit, bon, bah alors peut-être que il y a d'autres parents. En fait, si on fait ça à plusieurs, ça va faire un samedi sur quatre, si on est quatre parents. Bon, bah là, ça devient possible. Voilà, et donc, en fait, tout ça menant aussi petit à petit à cette question de la critique de la famille nucléaire telle qu'elle existe et de la comme construction, en fait, somme toute patriarcale malgré tout, quoi.
Oui, mais vous racontez dans ce que vous évoquez en tant que violence, vous racontez aussi parfois la jalousie d'une mère pour sa fille. Ce qui est vraiment insidieux et troublant dans votre livre, c'est la question de la maternité que je ne m'étais jamais posée, à savoir que finalement, entre les lignes, on s'interroge en se disant est-ce que, même dans les pays occidentaux, on peut se demander si on a envie d'avoir une fille ? Et ça, c'est une question que je ne m'étais jamais posée. En fait, on sait que dans d'autres pays, pour des questions de religion ou de culture, on peut avoir l'appréhension d'avoir une fille. Mais finalement, vous soulevez, vous, cette question un peu entre les lignes ou en évoquant le fait que vous, à partir du moment où vous devenez mère, vos rapports avec votre mère commencent à trouver des espaces un peu plus doux, relationnels, mais que vous avez un garçon. Et donc, je vais pas vous raconter ma vie, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu à me poser cette question-là de la fille. Je ne me la suis jamais posée, mais en tout cas, vous la posez. Et alors, celle-là, elle est très forte, cette question, parce que nous, dans des pays occidentaux, c'est une question qu'on n'aborde pas.
La question de est-ce qu'il existe encore plus ou moins consciemment une préférence pour avoir un garçon ?
Oui, ou en tout cas, il y a une vraie interrogation de se dire j'espère que ce ne sera pas une fille.
Eh ben, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que dans mon expérience personnelle, ça m'a, en fait, j'ai été soulagée quand j'ai appris que j'avais un garçon. Et ce soulagement, en fait, m'a surpris parce que je ne pensais pas. Je pensais que ça m'était totalement égal. Mais effectivement, j'étais soulagée parce que justement, je me disais je ne vais pas reproduire ces questions complexes. Et après, moi, j'avais peur ayant une fille, mais tout ça, c'est resté très abstrait, parce que je pense que si j'avais une fille, en fait, je me serais bien aperçue que les choses se passent différemment. J'ai l'impression que l'essence même de la parentalité, c'est de... qu'en fait, les choses se passent différemment que ce qu'on a imaginé. Mais en tout cas, à l'état abstrait, moi, j'avais peur aussi de l'écraser par mon féminisme. En fait, de vouloir qu'elle soit... Enfin, de vouloir la libérer d'une façon qui serait un peu écrasante pour elle. Avec un garçon, je me pose pas du tout cette question. Mais donc, en tout cas, ça me fait penser à un podcast qui est sorti cette année, qui s'appelle « Pas mes fils ». J'ai oublié quel est son prénom, mais elle s'appelle Julie Costa-Gavras, je crois, donc, qui est réalisatrice. Et donc, justement, elle s'interroge, elle a deux adolescents qui sont des garçons, et elle s'interroge sur la fabrique de la masculinité de ces garçons. Et dans le premier épisode, donc elle doit avoir une cinquantaine d'années, et elle interroge des femmes autour d'elle, et qui sont plusieurs, et c'est vraiment troublant à entendre, parce que le premier épisode, elle parle de ça, et qui disent « j'étais hyper soulagée d'avoir un fils ». Et il y en a qui disent « voilà... je me suis dit que les filles, c'était plus compliqué. » Et il y en a une qui dit explicitement, moi, j'avais un tel bagage avec ma mère que je voulais pas reproduire ça. Donc, ça dit bien. Alors, est-ce que c'est le cas? Pareil, il y a toujours cette question des générations. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Bon, il y a plein de copines, mais bon, il y a des biais, elles sont féministes, tout ça, qui disent, mais moi, je suis trop contente d'avoir une fille. J'ai même justement des copines, j'en parlais récemment, qui disaient qu'elles, elles trouvaient ça hyper troublant d'avoir un garçon et qu'elle ne savait voilà, elle savait pas comment ne pas élever un agresseur. Moi, je me dis pas ça. Mais oui, je pense que en tout cas, j'ai l'impression que ça, en tout cas, ça a existé longtemps et du coup, ça existe encore probablement aujourd'hui. Il y a pas de raison que ça ait magiquement disparu en 10 ans.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le fait que nous ayons en nous, chacun d'entre nous, des questions insidieuses dont nous n'avons pas conscience, la présence d'un état de fait qui nous impacte. Et à cet endroit-là, votre livre est très fort, puisque, comme vous le dites, on est à la fois à la place de la mère et à la fois à la place de la fille. Vous nous prêtez cette place en tant que lecteur, puisque c'est la vôtre. Et donc, vous êtes à l'écoute de ces deux pôles. Et en fait, ce qu'on voit bien, ce que vous nous racontez, c'est l'impact du patriarcat à des endroits cachés.
Bah moi, c'est ma passion, c'est mon obsession. Non, mais parce que c'est vraiment cette question-là de comment tout ça agit en nous, effectivement, de manière parfois visible et parfois assez peu. Et donc, c'est cette question de où sont ces... l'image qui me vient souvent, c'est un peu les treilles, quoi. Comme pour des plantes, et bah, de fait, forcément, on grandit telle une plante sur ces treilles-là. Et après, de ça, si on continue l'analogie botanique, on peut tirer des tiges qui sont pas accrochées à ces treilles. Mais on a quand même un peu poussé autour de ces treilles. Que ce soit la question du sexisme, la question du classisme, la question du racisme. En fait, on est aussi structuré par ça. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est un travail d'une vie. Et d'où aussi peut-être la métaphore de la cartographie. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu cette question d'essayer d'aller voir à quels endroits ces structures agissent en nous. Et évidemment, c'est une entreprise qui est complexe parce qu'on a par définition du coup des angles morts sur les endroits où ça agit. Mais et ça me fait penser aussi à ce très beau... concept de donc ces psychologues Carol Gilligan et Naomi Snyder que je cite dans le livre, qui elles parlent justement de la façon dont le patriarcat agit comme un fantôme, en disant en fait c'est certaines de ces structures ont disparu, mais il continue à agir c'est voilà, comme son écho, et en même temps c'est pas parce que c'est un écho ou un fantôme que ses effets sont pas encore réels. Et ça, je pense que bah, après, c'est pas mystérieux, ça fait des millénaires. Donc, cet écho-là, c'est difficile de le défaire. Et puis, j'en parlais encore récemment, j'ai l'impression que c'est si profondément ancré que non seulement c'est difficile de voir parfois où ça agit, mais en plus, ça revient, quoi. C'est vraiment une ortie. C'est-à-dire que on peut l'extirper et en même temps, voilà, on suffit de détourner la tête. Et en fait, on se retourne et puis souvent, on fait waouh! Et c'est revenu. Et la culpabilité, c'est ça, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on parlait du fantasme de la bonne mère et donc cette construction culturelle d'une mère qui est tout le temps à l'écoute, etc. Bon, donc plein de féministes ont montré à quel point tout ça est construit, tout ça est historiquement le produit de circonstances historiques, à partir du XVIIIe siècle, etc., de fantasmes patriarcaux, etc. Mais elle est quand même profondément ancrée, c'est-à-dire que des moments, je prends mon exemple, mais parce que je pense que ça concerne plein de mères, de me sentir culpabilisée sur des trucs, alors même que j'ai pas l'impression d'être si colonisée par cette bonne mère que ça, au contraire. Mais en fait, par un moment, je la vois bien. Je vois bien que si je me sens coupable à cet endroit-là, c'est probablement par parce qu'elle elle est revenue. Alors qu'il faut toujours la sarcler, quoi.
Alors, la dernière question que j'aimerais vous poser, Claire Richard, c'est est-ce que votre mère a lu le livre ?
Eh oui. Oui. Alors, je l'ai écrit justement en fermant tout à fait les écoutilles à l'idée qu'elle le lirait, parce que sinon, ça ne me semblait pas possible. Et après, je lui ai fait lire avant la publication, parce que c'était important qu'elle puisse le lire. Et donc, elle m'a dit qu'elle le lirait deux fois. Une première fois, un peu avec toutes les émotions que ça susciterait. Une deuxième fois, plus analytique. Et elle m'a dit qu'elle l'avait lu la première fois, mais pas encore la deuxième. Et on n'en a pas reparlé. Et après, c'est vrai, je dois dire que en le relisant un peu, je me dis qu'il est, il n'est pas facile à recevoir, je pense, pour elle. Même si je lui ai beaucoup dit, et je pense que ça se sent aussi, c'est pas un livre qui est en colère contre elle, et à chaque fois que je raconte des choses, par exemple, on en parlait tout à l'heure, l'angoisse de la nuit, c'est à l'entrée d'une section où plein d'autres femmes racontent la même chose, donc ça dit bien que c'est pas elle. C'est ce que le patriarcat fait des mères, aux filles. Mais quand même, je pense que c'est pas facile, et elle a été hyper respectueuse de mon travail, généreuse, elle m'a pas du tout culpabilisée, parce que c'est une vraie question aussi, qui est revenue, que j'ai reçue dans un message récent, qui était hyper beau, parce qu'à la fois elle me remerciait en tant que fille d'avoir mis des mots sur des choses qui lui parlaient, pour le concept de matrophobie, etc. Et elle disait aussi en même temps, moi je suis aussi mère d'une fille, et je me demande qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que ça me désolerait de refaire une sorte de tribunal intérieur, et de me reculpabiliser. Et c'est une vraie question. Comment on arrive à penser tout ça sans régénérer de la culpabilité pour les mères qui, pour beaucoup, ont fait ce qu'elles ont pu. Et en même temps, parce que tout est compliqué, on peut pas non plus dire de tout, elles ont fait ce qu'elles ont pu, elles ont fait comme on a pu. Parce que dans le livre, il y a des gradations de violence, il y a des récits de vraie violence, où là, pour le coup, la question est plutôt aussi de savoir, de faire passer une ligne de responsabilité, que ça... Le fait d'avoir être victime, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, mais d'un système, etc., ne dédouane pas de toutes les actions. Mais voilà, c'est compliqué de savoir comment pouvoir parler de ça sans créer de nouveaux endroits de culpabilité. Et je dois dire que ma mère, elle a été hyper super. Et comme, en plus, là, comme j'en ai beaucoup parlé, donc je suis très heureuse de ça, mais je me dis aussi que. Alors, je sais pas si elle les écoute. On n'a pas parlé des articles parce que je lui ai pas envoyé du coup aussi pour pas pas rappuyer sur ça parce que du coup c'est comme si à chaque fois elle était un peu le repoussoir d'une mauvaise mère et tout alors que vraiment pas plus que ça quoi donc c'est je me dis qu'elle est et qu'il faut que je lui dise ça aussi que ce livre il permet une conversation plus générale parmi d'autres hein, c'est pas du tout une prétention, je dis pas qu'il a ouvert voilà, mais il fait partie d'un moment où on peut avoir une conversation plus générale sur comment le patriarcat a affecté ces relations là et que je la remercie aussi parce que c'est pas forcément c'est peut-être pas hyper simple pour elle non plus je pense d'avoir reçu ces mots-là même si elle, je pense qu'elle a rien découvert hein, mais voilà, donc je pense qu'elle verra pas cette vidéo mais si tu la vois je te remercie. Non, elle va pas avoir cette discussion.
En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que vous ne pointez pas du doigt votre mère dans ce livre, ça c'est certain. C'est pas ça qui ressort hein, de votre écriture. C'est effectivement la question avant tout. Même si vous dites, et ça je trouve c'est assez drôle, et je vous interrogerai bien quand même en deux mots sur le fait que vous dites chercher à définir un concept, c'est comme essayer d'attraper un fauve avec un lasso. Donc j'aimerais que vous commentiez cette petite phrase avant qu'on se quitte.
Ouais, c'est parce que. Ouais, c'est ça, définir un affect, c'est comme un fauve ou la sauce, parce que j'ai l'impression que ça permet de... Disons que c'est pas gagné, quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est que le mettre à plat, parce que c'est aussi une idée qui m'avait beaucoup frappée pendant l'écriture, le déplier, ça garantit pas qu'on sera plus affecté par lui. Enfin, voilà, qu'on en est protégé. Et c'est aussi une idée dont j'ai trouvé l'écho, par exemple, dans justement Adrienne Rich, qui parle des cercles de parole des années des féministes des années 70, et qui dit, en fait, au bout d'un moment, on s'est aussi aperçu. Alors, elle le dit beaucoup mieux. C'est dommage, j'ai plus la citation en tête parce qu'elle dit comme toute. Elle dit un peu comme toute pensée qui rabat trop étroitement le politique sur l'intime. Ou en fait, on n'avait pas pris en compte le fait que il y avait des limites à cette approche et que expliciter les mécanismes. ça nous guérissait pas nécessairement parce que certaines des blessures sont profondes. Donc c'est plus ça, parce que j'avais l'impression aussi que moi, dans mon cheminement et dans celui que je lisais dans plein de récits, c'était beaucoup des allers-retours. Donc peut-être pour se prémunir de l'idée que y aurait une sorte de clé magique, quoi.
Absolument. Bon, en tout cas, on vous remercie. Vous avez ouvert une grande conversation avec ce livre. Et donc, je vous remercie déjà pour cette première heure qu'on a passée ensemble. Et
merci.
J'espère qu'on en aura d'autres. Merci encore, Clarisha.
Merci beaucoup. Merci.